Et vous vous souvenez ce que nous avons examiné la première fois, cette nécessité du sacrifice rédempteur, l'unicité du sacrifice rédempteur et sa place dans le plan de Dieu. Donc rappelez-vous que bien que l'homme ne peut pas être sauvé par la seule incarnation. Cela ne peut pas suffire. S'il n'y a que l'incarnation, il n'y a aucun acte humain dans la rédemption. S'il n'y a que l'incarnation, notre Seigneur lui-même ne pose aucun acte humain. C'est tout. Il est, il existe et c'est tout. Et si c'est l'incarnation qui est rédemptrice, notre Seigneur lui-même n'a rien fait. Donc aucun acte humain n'intervient dans la rédemption. Oui, ce qui veut dire eh bien, que la rédemption est l'œuvre gratuite de Dieu. Et donc l'homme, vis-à-vis de Dieu, n'aura fait que pécher, et tout. Il n'aura fait que l'insulter, l'offenser par son refus. Et ensuite, c'est Dieu qui pardonne librement. Mais l'homme ne fait rien, oui, pour sa rédemption. Donc Dieu restera éternellement l'offensé. Pardonnant, peut-être, mais offensé. Donc, si vous voulez, l'homme n'aura jamais compensé ou surcompensé cet acte de refus de l'amour de Dieu. Donc, il y a quelque chose qui ne convient pas très bien. Ouais, ça n'est pas conforme, justement, à cette miséricorde de Dieu, cette bonté de Dieu pour sa création, surtout pour l'homme qui veut, justement, bien, son but, bien, c'est de le remettre, de le restaurer dans sa dignité primitive, et même encore plus, si la chose est possible, comme nous le disons dans la prière de l'offertoire, cette très belle prière, hein, Deus qui humane substantiae. Bon, vous irez voir. C'est une très très belle prière dans laquelle nous disons justement que Dieu avait établi l'homme dans une dignité et l'a restauré dans une dignité encore plus grande, plus belle, plus supérieure. Vous voyez, ça, c'est le fait de la rédemption. Après la rédemption, ben, l'homme est encore élevé à un niveau supérieur de grandeur, de noblesse et de dignité parce que, précisément, notre Seigneur est intervenu pour donner à cet acte humain une valeur divine. Et le sacrifice de la croix est le sacrifice, l'unique sacrifice parfait et rédempteur qui suffit à tout restaurer. Il suffit à restaurer tout l'ordre établi par Dieu. Dans ce sacrifice, le prêtre et la victime et la deuxième personne de la Sainte Trinité, donc valeur infinie de ce sacrifice. Mais c'est un véritable sacrifice humain quand même, car cette deuxième personne de la Sainte Trinité est homme. Et donc c'est un acte humain, mais qui est amplifié à l'infini par la personne divine qui assume cet acte humain. Donc eh bien, il est rédempteur parce qu'il est posé par Dieu, il est rédempteur pour l'homme parce qu'il est posé par un homme. Voilà toute la beauté de ce mystère rédempteur tel que Dieu l'a voulu. Et ce sacrifice est un sacrifice véritable. Sacrifice véritable, un sacrifice dans la tradition des hommes, généralement on appelle sacrifice l'offrande d'un être animé, généralement le vrai sacrifice est l'offrande d'un être vivant, d'un être qui a la vie, d'un être animé que l'on immole, donc l'immolation avec l'offrande d'un être vivant, qui est faite par un ministre légitime au nom du peuple, un ministre qui pratique ce sacrifice au nom du peuple et qui l'offre à Dieu. Et à Dieu seul on offre des sacrifices afin de reconnaître son domaine souverain, sa souveraineté, et pour apaiser sa justice. C'est cela le sacrifice en soi. Ouais. Donc l'immolation, l'offrande d'une victime faite par un prêtre, au nom du peuple et offert à Dieu pour reconnaître sa majesté et apaiser sa justice. C'est bien, notre sacrifice ici est un véritable sacrifice et réalise tout à fait cette définition, puisque l'essence même du sacrifice de la croix, il y a une immolation et une oblation. Oblation et immolation, les deux réalités ne sont pas exactement les mêmes. Et saint Thomas d'Aquin nous expose très bien nous expose très bien que toute immolation est une oblation, mais toute oblation n'est pas une immolation. C'est simple à comprendre, cela. Une oblation, c'est une offrande. On peut très bien offrir quelque chose qu'on n'immole pas. C'est le simple geste d'offrir, alors que l'immolation, bon, c'est la mise à mort, si vous voulez, d'un être vivant, d'un être animé. Donc toute oblation n'est pas une immolation, mais l'immolation est toujours une oblation. Si on immole, c'est dans un geste d'offrande, c'est pour offrir, bien sûr. Donc ici, nous avons cette immolation et l'oblation, bien sûr. Notre Seigneur s'offre à son Père. Il y a un ministre, donc, car ce sacrifice est offert, eh bien, c'est un acte du culte public, ce culte d'adoration de Dieu, et qui est accompli au nom du peuple, au nom de toute l'humanité. Jésus-Christ s'immole au nom, à la place de tous les hommes. Et ceci, bien sûr, pour reconnaître d'abord, eh bien, la majesté de Dieu, reconnaître le souverain domaine de Dieu sur toute l'humanité, et satisfaire à sa justice. Et là, vous avez les quatre finalités du sacrifice dont nous parlions. Vous voyez, reconnaître la souveraineté de Dieu, eh bien, c'est la fin latrotique, l'adoration, et l'Eucharistie, l'action de grâce, et la satisfaction, c'est donc les deux autres finalités, propitiatoire et impétratoire, hein, la demande. Donc tout est le sacrifice de notre Seigneur, vraiment, est le sacrifice parfait, qui réalise vraiment la définition parfaite du sacrifice, et qui est parfait en plus, de par la personne de la victime et du prêtre. Alors nous disions donc que ce sacrifice est unique et il suffit à tout. Alors la question que nous nous poserons ce soir, eh bien, c'est comment ce sacrifice de la croix peut être réitéré, s'il est réitéré, s'il est répété. Est-ce que vraiment ce sacrifice, eh bien, peut trouver d'autres réalisations dans l'histoire des hommes? Eh bien, la réponse, vous la connaissez, bien sûr, mais il s'agit de l'expliquer un peu. D'abord à partir de la Sainte Écriture, les textes de la Sainte Écriture qui nous disent deux choses, celles dont nous avons parlé déjà. Tout d'abord que la croix, le sacrifice de la croix est un événement unique et qui suffit. Et le deuxième, eh bien, que la scène, elle, l'acte de la scène, réalise une institution destinée à demeurer, une institution permanente. Tout d'abord, l'unicité de l'événement de la croix, je n'y reviendrai pas, puisque c'est en gros tout ce que nous avons traité dans la première conférence, hein, la non-réitérabilité de l'événement de la croix. On ne peut pas refaire le sacrifice de la croix, il a été fait une fois, on ne peut pas le refaire, ce sacrifice. C'est ce que nous dit saint Paul, surtout dans l'Épître aux Hébreux. Nous l'avons vu, par une oblation unique, le Christ a rendu parfait pour toujours ceux qu'il sanctifie. Voilà, cela suffit. Et toute l'Épître, justement, si vous lisez l'Épître aux Hébreux, est destinée à manifester justement la majesté, la grandeur d'abord du sacerdoce du Christ, et en opposant justement la multiplicité des anciens sacrifices, des sacrifices de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Loi, et l'unicité du Nouveau. Vous voyez, cette comparaison pour montrer justement la perfection du sacrifice de la croix en le comparant à cette nécessité de répéter quotidiennement les sacrifices sous l'Ancienne Loi. C'était quelque chose d'extraordinaire, tous les jours, tous les jours, tous les jours, comme nous aujourd'hui. Alors que le sacrifice de la croix, lui, il est tellement parfait qu'il n'est pas nécessaire de le répéter. Donc cela, la chose est bien claire, hein. Et pourtant, l'Écriture également, eh bien, nous affirme la nécessité de réitérer. Difficile d'employer le mot juste, hein, pour cette question du sacrifice de la scène ou de la messe, parce que c'est pas une répétition, on ne répète pas un sacrifice, on fait autre chose, on le réitère, voyez, on le représente, mais enfin nous allons le voir, c'est-à-dire qu'on le rend présent à nouveau. Et l'Écriture donc nous dit également cette nécessité, cette obligation, eh bien, de reproduire donc ce sacrifice de la scène. Dans l'Ancien Testament, déjà une annonce de ce sacrifice perpétuel qui ne cesserait pas, c'est dans le prophète Malachie, un passage bien connu que cite le Concile de Trente. En tout lieu, de l'aurore au couchant, on sacrifie. Et une oblation pure est offerte à mon nom. Et en tout lieu, de l'aurore au couchant, on sacrifie. Donc, sacrifice qui se répète comme cela. De l'aurore au couchant et en tout lieu. Donc, une sorte de figure d'annonce déjà de ce que serait le sacrifice de la messe. Oui, ça, il ne s'agit pas là des sacrifices anciens, qui eux bien ne sont remplacés, sont abolis, remplacés par le nouveau sacrifice. Ce ne peut pas être non plus le sacrifice de la croix, qui n'est réalisé qu'une seule fois. Donc, eh bien, c'est un autre sacrifice. Alors, il faut en venir, bien sûr, le passage de l'Écriture le plus important, bien sûr, ce sont les récits de l'institution, les récits de la scène. Et c'est là, justement, que nous aurons bien l'explication un peu, ou que nous pourrons commencer du moins à discerner un petit peu ce mystère. Comment peut-on répéter, d'une certaine façon, le sacrifice de la croix ? L'institution de la scène, nous avons quatre récits de la scène, donc quatre récits, non pas les quatre évangiles, car Saint Jean ne le raconte pas. Saint Jean nous raconte la scène, sauf le sacrifice. Il raconte tout, le lavement des pieds, le reniement de Judas, pardon, le discours après la scène, mais la scène elle-même, Saint Jean n'en parle pas. Les trois autres évangélistes en parlent, bien sûr, exposent, racontent ce qui s'est passé, Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Marc, et également Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Alors que Saint Paul n'était pas présent à la scène, mais il en a eu la révélation par notre Seigneur lui-même, quand il s'est retiré après sa conversion à Damas. Il s'est retiré pendant 3 ans dans le désert d'Arabie, et là, il a été instruit par notre Seigneur lui-même. Il le dit, il le raconte, il a été élevé même au troisième ciel, dit-il, et il a vu des choses qu'aucun homme ne peut dire, etc. Donc, c'est notre Seigneur lui-même qui l'a instruit et qui lui a communiqué une révélation, et sans doute c'est là qu'il a appris eh bien, comment s'était déroulée la scène. Donc, il vient compléter le récit des trois autres évangélistes. Parmi les évangélistes, Saint-Luc et Saint-Marc n'étaient pas présents non plus. Hein. Saint-Luc n'est pas un apôtre, Saint-Marc non plus, hein, seul. Saint-Matthieu était présent. Saint-Marc lui rapporte l'enseignement de Saint-Pierre, et Saint-Luc, lui, était un disciple de Saint-Paul. Donc le seul témoin oculaire, si l'on peut dire, eh bien, c'était Saint-Matthieu. Mais les autres, eh bien, l'ont appris des autres apôtres. Et que nous dit donc ce récit de l'institution ? Il nous dit, d'abord, il nous manifeste d'abord que la scène est un sacrifice, et le sacrifice déjà, qu'à la scène, donc la scène, si vous voulez, contient le Christ actuellement offert et immolé. Et une deuxième chose, eh bien, qu'il faut reproduire la scène telle qu'elle a été réalisée par Jésus-Christ. Voilà, deux enseignements capitaux que l'on tire de ce récit de l'institution. Alors, il faudrait faire un peu de philologie, presque, un peu de grec, non pas de latin, mais de grec ce soir, oui, puisque les récits de la scène ont été écrits d'abord en grec, en langue grecque, pour la plupart d'entre eux. Mais enfin, sans trop vous embarrasser avec ces questions grammaticales, si nous regardons d'abord le récit du corps, oui, la consécration du pain, Saint-Luc et Saint-Paul, donc Saint-Luc. Saint-Luc, vous avez ça au chapitre 22, verset 19, et Saint-Paul, c'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11. Ils disent à peu près la même chose, et la traduction littérale de ce qu'ils écrivent se ramène à cela. « Ceci est mon corps qui se donne pour vous. » Ce sont les deux seuls, vous voyez, qui ajoutent à la formule « Ceci est mon corps », un additif, oui, qui est livré pour vous. Alors on le traduit de façon très très différente, qui est livré pour vous, qui est donné pour vous, etc. Mais la traduction la plus juste et la plus littérale par rapport au texte, au mot grec, eh bien, ce serait celle-ci : ceci est mon corps qui se donne pour vous, qui est en train de se donner pour vous. C'est un participe présent en grec. Oui. Saint Matthieu et Saint Marc, eux, se contentent de dire « ceci est mon corps ». Rien de plus. Bon, c'est déjà énorme, bien sûr. Hein. Rien que ces mots-là, « hoc est corpus meum », ça signifie quelque chose de bien réel. Hein. Pour le sang, donc pour la consécration du vin dans le sang de notre Seigneur, Saint Luc et Saint Paul nous disent ceci, donc si nous traduisons toujours, « Cette coupe est la nouvelle alliance, parce qu'elle contient mon sang, qui se livre pour vous. » Bon, ce n'est pas la traduction la plus élégante, peut-être, ni la plus courante, mais la plus grammaticale est sans doute celle-ci. Oui, « Cette coupe est la nouvelle alliance, parce qu'elle contient mon sang, qui se livre pour vous, qui est en train de se répandre pour vous. » Donc, si vous voulez, dans cette coupe est présent le prix de la rédemption du monde. Saint Marc et Saint Matthieu, eux, ajoutent un complément. « Ceci est mon sang de l'Alliance, répandu pour beaucoup, c'est le promultis, le fameux promultis, répandu pour beaucoup, en vue de la rémission des péchés. » Donc, ils ajoutent une petite nuance, et qui est de taille, hein, c'est-à-dire qu'à la scène donc est présent le sang du Christ, bien, avec sa vertu d'opérer la rédemption, hein, qui est répandue pour beaucoup en vue de la rémission des péchés, donc avec la vertu d'opérer la rédemption et avec son effet qui est la rémission des péchés. Donc le sang est répandu dans la coupe, le sang, ce qu'il y a dans la coupe, c'est le sang répandu pour beaucoup, donc pour la rédemption, et avec son effet, qui est la rémission des péchés. Et donc, si on prend les textes dans leur sens obvi, leur sens premier, immédiat, eh bien, le corps et le sang sont véritablement offerts, donnés, répandus, versés à Dieu pour nous. Et à quel moment le sont-ils ? Au moment de la scène. Ouais. Donc, sous les apparences sacramentelles, sont déjà le corps et le sang du Christ qui sont déjà engagés dans le sacrifice, ce sacrifice qui va se terminer à la croix. Mais le sacrifice est déjà commencé, le corps est déjà donné, le sang est déjà répandu. Oui, alors, bon, bien sûr, c'est difficile de traduire cela en mots humains, c'est tellement incompréhensible cela. Oui, mais c'est le corps qui est en train de se donner, c'est le corps qui est en train de se livrer, donc qui est en train d'être immolé et en train de s'offrir, et c'est le sang qui est en train de se répandre et qui se livre pour le salut des hommes. Alors, si vous connaissez un peu de grec, mais allez voir les textes originaux, vous verrez qu'effectivement, bien, vous avez là des participes présents, donc qui manifeste une action qui est en train de se réaliser, ou bien encore l'imparfait, ou l'aoriste même, ouais, qui est un temps qui manifeste une action qui dure, ouais, une action qui commence et qui dure. Donc c'est une action qui a une certaine durée, ouais, qui n'est pas, ce n'est pas simplement un acte, ouais, mais il y a également une notion de durée. Ouais. Donc, si l'on peut dire, même une certaine idée déjà d'éternité. Oui, donc le corps de notre Seigneur est déjà donné, son sang est déjà répandu au moment où il institue le sacrement. Et à la scène, notre Seigneur livre son corps et verse son sang en toute réalité. On comprend comment les apôtres ont dû être un peu bouleversés. Hein. Parce que ça, je pense, sans être de grands théologiens, je pense qu'ils l'ont compris. Et quand on nous dit qu'il faut retrouver la pureté de l'Évangile et revenir à la scène telle qu'elle se célébrait de façon primitive. Moi, je veux bien. Mais alors qu'on retrouve les sentiments des apôtres au jour de la scène. Je pense qu'ils n'avaient pas envie de jouer de la guitare. Je pense pas. Et en plus de cela, bien notre Seigneur, non seulement il réalise son sacrifice, donc il le rend vraiment présent, là, on dirait, entre ses mains, déjà, quelque chose d'extraordinaire. Il y a notre Seigneur qui tient entre ses mains, eh bien, son corps et son sang déjà immolés, répandus. Et en plus, donc, eh bien, il ajoute cet ordre. Il ordonne aux apôtres, eh bien, de refaire cela, de faire ce qu'il vient de faire. Ouais. Nous l'avons dans Saint-Luc et dans Saint-Luc pour le corps. Saint-Luc ne mentionne cet ordre que pour le corps. « Ceci est mon corps qui se donne pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, ou pour vous souvenir de moi. » Et saint Paul, dans la première aux Corinthiens, lui, le dit pour le corps et pour le sang. Il le répète après chaque consécration. Faites-le en mémoire de moi. Donc, il faut faire quelque chose en mémoire de Jésus. Il ne suffit pas simplement de dire quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir de quelque chose. Attention, il s'agit de faire quelque chose. Et quoi? Eh bien, ce qu'il vient de faire. Tout simplement, c'est très simple à comprendre. Il n'y a pas à se torturer la cervelle pour savoir quelle était l'intention de notre Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Ceci, eh bien, c'est ce que je viens de faire. Il faut le faire comme il vient de le faire. Donc, son corps qui est donné, son sang qui est répandu. Et donc, à la scène, eh bien, la passion est déjà en train de s'accomplir. Sous un autre mode, bien sûr, sous une apparence cachée, mais la passion est déjà en train de s'accomplir, là, au soir de la scène. Voici ce qu'écrit le père Lagrange. L'alliance est le testament de Jésus qui va mourir et dispose de son sang. Ce sang est répandu au présent, représentant le futur quant à la réalité des faits. Et le sang est répandu au présent et il représente le futur quant à la réalité des faits. La réalité visible, sensible du sacrifice, eh bien, ne se produira que le Vendredi Saint, mais la réalité cachée, elle est déjà présente. Et elle se réalise déjà. Dès cet instant, cette effusion est envisagée comme un sacrifice et c'est en qualité de sang versé que le sang de Jésus figure dans le calice. Et donc les apôtres devront rendre présent son corps en tant que donné, son sang en tant que répandu, en vue de la rémission des péchés. Et donc la scène est déjà sacrifice propitiatoire. La scène est déjà le sacrifice propitiatoire, c'est en rémission des péchés. Ils devront donc rendre notre Seigneur présent en tant qu'il s'offre et qu'il s'immole pour les péchés. Et donc, il y aura effectivement multiplicité des oblations et des immolations sacramentelles contenant le sacrifice réel de notre Seigneur. Là, c'est tout le problème de l'ordre sacramentel, dont la réalité est identique, mais dont les apparences, eh bien, si vous voulez, la réalité du... Le formel du sacrement, eh bien, c'est la réalité de signe. Oui, le signe d'une réalité. La réalité, eh bien, elle est rendue présente sous un autre mode, sous d'autres apparences, mais la réalité, elle est bien là, elle est réelle, si j'ose dire, la réalité est bien réelle. Il n'y a que les apparences qui changent. Oui. Donc, il y a un vrai sacrifice qui n'est pas réitéré en tant que tel, non pas tel qu'il se réalise sur la croix, mais... C'est la présence, si vous voulez, présence réitérée du sacrifice. Si l'on peut dire, ce n'est pas le sacrifice qui se répète, mais c'est la présence du sacrifice qui se répète. Petite nuance, oui, bon. Et on a de cela une certaine confirmation. Dans saint Paul, la première aux Corinthiens, toujours, oui, qui vient confirmer un peu justement la pensée de saint Paul, qui vient bien l'éclairer. C'est au chapitre 10 de la première aux Corinthiens, où il fait un parallélisme entre les sacrifices qu'offrent les païens, ou les victimes qui sont offertes en Israël, ou les viandes qui sont immolées aux idoles, comme il dit, et puis le pain que nous rompons et la coupe que nous bénissons. Il fait un parallélisme entre les deux. Oui. Et ce parallélisme ne tiendrait pas si le sacrifice de la messe, donc, puisque là il parle bien sûr du sacrifice de la scène ou de la messe, n'était pas un véritable sacrifice. Et puisque du côté des juifs, du côté de ces viandes immolées aux idoles, eh bien, ce sont bien de véritables sacrifices, pour que le parallèle joue, il faut qu'il y ait également un véritable sacrifice. Oh, c'est ce qu'il dit. Le calice de bénédiction que nous bénissons n'est-il pas une communion au sang du Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas une participation au corps du Christ? Car nous sommes un seul pain, un seul corps, malgré le nombre, nous tous qui participons à un seul pain. Voyez Israël selon la chair, ceux qui mangent des victimes ne participent-ils pas à l'autel? Donc, il se réfère à ce que font les sacrifices d'Israël. Et ceux qui mangent les victimes ne participent-ils pas à l'autel? Donc, véritable sacrifice, consommation des victimes, on participe à l'autel. Quoi donc, ai-je prétendu que ce qui est immolé aux idoles est quelque vertu, ou que l'idole soit quelque chose? Non. Mais je dis que ce que les gentils immolent, ils l'immolent aux démons et non à Dieu. Or, je veux que vous n'ayez aucune société avec les démons. Vous ne pouvez pas boire le calice du Seigneur et le calice des démons. Et parce que la réalité est la même. Il y a un sacrifice des deux côtés. Alors, il faut bien choisir son sacrifice. Attention. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous voyez, si on nie la réalité du sacrifice de la messe, Saint Paul, ça ne tient pas son truc, ça vaut rien, sa comparaison ne joue pas. Puisque d'un côté, il y a un véritable sacrifice, et puis de l'autre, il n'y aurait que, je ne sais pas quoi, un souvenir, une mémoire, ou je ne sais quoi. Donc il n'y a pas de parallélisme qui tient. Ouais. Et dans la troisième, si vous voulez, troisième confirmation, autre confirmation, c'est donc dans ce chapitre 11 de la première aux Corinthiens, après avoir rapporté donc le récit de l'institution, que dit Saint Paul, qu'est-ce qu'il ajoute? Toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et un peu plus loin, celui qui mange et boit indignement, mange et boit sa propre condamnation, ne faisant pas le discernement du corps du Seigneur. Et c'est-à-dire que celui qui userait mal, donc, du sacrement, du corps et du sang du notre Seigneur, eh bien, serait coupable du corps et du sang du Seigneur, c'est-à-dire du Christ en tant qu'immolé. Et pourquoi, chaque fois que nous célébrons ce sacrifice, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne? Eh bien, parce que ce sacrifice contient le sacrifice, la mort, de notre Seigneur, parce qu'il contient le corps et le sang du Christ, le Christ immolé. L'Eucharistie annonce, elle proclame, eh bien, ce qu'elle est, tout simplement. Elle annonce, elle proclame, elle manifeste ce qu'elle est. Elle est le Christ immolé. Elle rend, bien sûr, présente la mort du Seigneur, qui n'est survenue qu'une fois, mais elle rend présente cette mort, ce sacrifice de notre Seigneur, cette immolation, afin de sauver tous les temps, afin que ce sacrifice puisse parcourir toute l'histoire des hommes, toucher toutes les générations, jusqu'au retour de notre Seigneur pour juger justement toutes les générations. Donc il y a, vous voyez, si l'on prend le sens clair des Saintes Écritures, un événement unique qui est le sacrifice de la croix, mais une institution à reproduire jusqu'à la fin des temps, qui est le sacrifice de la scène. Et c'est celui-là, et c'est le sacrifice de la scène que va reproduire le sacrifice de la messe. Alors, est-ce qu'il y a compatibilité? Comment peut-on expliquer cette compatibilité entre l'unicité du sacrifice et cette reproduction multiple? Eh bien, je crois qu'il n'y a qu'une chose à dire, ou presque, eh bien, c'est Mysterium Fidei. De temps en temps, il faut accepter de se taire et d'adorer. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre et que je ne pourrais pas vous expliquer. Et si je prétendais vous expliquer le mystère, vous seriez en droit de me mettre à la porte. Il n'y a pas à choisir. Dans l'Écriture, il faut prendre tout ce que nous dit l'Écriture, même si nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas comment tout cela, s'emboîte avec assez de clarté, etc. Mais il faut prendre toute l'Écriture. Il ne peut pas y avoir de contradiction dans la Sainte Écriture. Et si nous ne comprenons pas, c'est parce que nous sommes un peu débiles. Dieu comprend, lui, ça, il n'y a pas de problème et ça nous suffit. L'événement, bien sûr, ne peut pas être multiplié, mais sa présence peut l'être. Oui, c'est là peut-être un peu l'explication que l'on peut donner du mystère. Oui. L'événement lui-même ne peut pas être multiplié, il est unique, c'est le sacrifice de la croix, mais la présence de cet événement unique, elle, peut être multipliée. Alors, bien sûr, là, c'est la grande querelle avec les protestants. Hein, vous le savez bien sûr, hein, c'est là-dessus que, à la limite, que se tient l'essentiel de notre querelle avec la doctrine de la justification, en plus, pour lesquels, donc, les protestants, pour eux, il ne peut pas être question, justement, d'un sacrifice ou d'une offrande à la scène ou à la messe. Hein, pour eux, c'est une aberration, hein, que l'on parle de sacrifice à la messe ou à la scène, non. Il n'y a pas d'autre sacrifice que l'unique sacrifice de la croix. Donc, vous voyez, en gros, les protestants refusent le mystère. Ils savent, ils admettent, bien sûr, ce que nous admettons nous aussi, qu'il n'y a qu'un seul sacrifice de la croix, mais ils ne voient pas ou n'admettent pas que ce sacrifice puisse être rendu présent sous d'autres modes, d'une autre façon. Donc, ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont tout simplement, hein, ça, c'est la grande spécialité des protestants et surtout des fondateurs, Luther et les autres, hein, c'est une nouvelle interprétation des textes de l'Écriture, oui, et des textes de l'institution contre toute la tradition de l'Église, contre tous les commentaires qu'ont pu en faire les pères, etc., y compris ceux qui étaient les plus proches de l'institution, de notre Seigneur et des apôtres. Oui. Toutes les explications qu'ont pu en donner donc les pères de l'Église, les docteurs, eh bien tout cela s'est balayé, cela ne vaut rien, Luther arrive, Luther a tout compris, nouvelle explication des textes de l'institution pour leur faire lire eh bien, ce que personne n'y avait jamais vu encore. Oui. Bon. Et puis ensuite, eh bien, s'il ira beaucoup plus loin, s'il ira même par, ça finira par des violences contre la messe, des violences physiques, bien sûr, mais même déjà des violences verbales. Luther a des propos qui sont vraiment insoutenables, on ne peut pas tout vous lire. Hein. Il y a des choses qu'on frémit même à lire. Hein. C'est un scandale, écrit-il, de penser que la messe est, comme on le croit partout, un sacrifice offert à Dieu. Un scandale. Pour Calvin, lui, qu'est-ce qu'il dit, Calvin ? Mais il n'y a que Satan qui a pu aveugler quasi tout le monde de cette erreur pestilentielle qu'on crut la messe être sacrifice et oblation pour impétrer la rémission des péchés. Satan, donc, ne dressa jamais une plus forte machine pour combattre et abattre le règne de Jésus-Christ. Alors, quelle est la source, je dirais, de l'erreur protestante? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas bien compris ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas su expliquer comme il convient? Eh bien, c'est qu'ils voient le sacrifice de la croix et le sacrifice de la scène ou de la messe en juxtaposition. Vous voyez, ils veulent juxtaposer le sacrifice de la messe au sacrifice de la croix. Donc, une sorte d'addition. Il y a le sacrifice de la messe et puis ensuite, on lui juxtapose un autre sacrifice qui est celui de la messe. Donc il y a un autre sacrifice, effectivement, qui est donc rival du premier, qui fait concurrence au premier, et donc qui, effectivement, insulte peut-être au sacrifice de la croix, qui est unique et qui suffit. Mais alors qu'est-ce que c'est que cet autre sacrifice qui vient s'ajouter à celui-là, comme si le sacrifice de la croix ne suffisait pas? Voilà le scandale des protestants, parce qu'ils voient cela comme une juxtaposition. C'est pourquoi Calvin, eh bien, veut prouver que la messe, bien qu'elle soit, comme dit-il, fardée, parée et fardée, c'est beau, il y a de l'encens, de la musique, je ne sais quoi, donc c'est bien beau, mais la messe fait un très grand déshonneur à Jésus-Christ. Elle opprime, elle ensevelit la croix, elle met en oubli sa mort, elle nous ôte le fruit qui nous en provenait. Vous voyez, le sacrifice de la messe se substitue, pour lui, dans son esprit, au sacrifice de la croix qu'elle fait oublier. Donc on oublie la croix à cause de la messe. Et un prêtre mortel, selon lui, se substitue au prêtre éternel. Nous prenons la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Un autre sacrifice vient s'ajouter à celui de la croix. Une nouvelle rédemption, une nouvelle rémission. Et donc, juxtaposition comme une addition. Alors, bien sûr, si vous voulez, il est bien clair qu'à ce moment-là, on ne comprend plus, vous voyez, ce que notre Seigneur a voulu, ce que notre Seigneur a fait à la scène. On ne comprend plus, précisément, vous voyez, que ce que le Christ a rendu présent à la scène, eh bien, c'était son corps donné pour nous, son sang répandu pour la multitude, ou pour beaucoup, en vue de la rémission des péchés. On oublie même ce que disait saint Paul, là, ce que faisaient les Corinthiens, oui. Eh bien, qu'ils annonçaient la mort du Seigneur en communiant à son corps et à son sang. On oublie tout cela, oui. Et on innove alors sur moi-là une exégèse complètement nouvelle, oui, effectivement, pour effacer un peu de l'Écriture, eh bien, cette idée de sacrifice non sanglant. L'idée qu'on puisse offrir un sacrifice non sanglant, que le sacrifice sanglant puisse être rendu présent de façon non sanglante. Et si donc les protestants parlent à propos de la messe, eh bien d'offrande du Christ ou de sacrifice, même à la limite ils veulent bien le mot, mais attention, en distinguant bien quel genre de sacrifice, eh bien c'est simplement parce que son corps y est donné en nourriture. Oui. Il n'est rien de plus qu'une pure commémoration. Nuda commemoratio, pure commémoration, mais non sacrificielle, du sacrifice accompli sur la croix. On se souvient du sacrifice de la croix, mais il n'est pas question de le rendre actuel, de le rendre présent. Et voilà pourquoi les protestants, bien dirais, sont scandalisés, bien que nous puissions parler du saint sacrifice de la messe ou de sacrifice propitiatoire. Ça, c'est pour eux, c'est un blasphème. Parce que, vous voyez, ils voient ça comme un sacrifice qui vient s'ajouter, qui vient se juxtaposer. Alors que la doctrine catholique, eh bien justement, ne conçoit pas le sacrifice de la messe comme un sacrifice en plus, mais comme un sacrifice subordonné. Et c'est la notion de subordination, et non pas de juxtaposition. C'est un sacrifice qui est entièrement dans la dépendance du sacrifice de la croix. Et le sacrifice de la scène, comme le sacrifice de la messe, est par essence dépendant, subordonné, totalement référé au sacrifice de la croix. Et son but est de perpétuer la présence du sacrifice parfait. Et perpétuer la présence du sacrifice parfait. Il y aura un sacrifice sacramentel qui va perpétuer la présence du sacrifice de la croix. Proche. Je sais bien que ce n'est pas toujours des choses très très faciles à comprendre cela, mais quand on est théologien, même protestant, je pense qu'on devrait être capable de le comprendre. Oui. Et donc l'unique sacrifice est achevé du côté de notre Seigneur, du côté de la tête, du corps mystique, mais il est inachevé du côté des membres. Le sacrifice, il est achevé du côté du Christ, ça y est, lui, il a réalisé son sacrifice, mais de notre côté à nous, du côté de l'Église et des membres du corps mystique, le sacrifice n'est pas encore achevé. C'est pourquoi il faut que le sacrifice unique de la tête, eh bien, continue à se rendre présent pour que nous puissions nous unir à ce sacrifice et le faire nôtre, oui, rentrer dans le sacrifice de la croix. Afin que ce sacrifice soit effectivement le nôtre, comme nous le disons hein, dans la prière de l'Orate Fratres. Hein. Donc du côté du Christ, il est unique, mais de notre côté à nous, il faut que ce sacrifice eh bien, soit rendu présent pour tous les êtres vivants, pour tous les êtres humains, afin que chacun puisse y prendre place et s'unir à lui. Hein. Donc ce sacrifice continue de s'accomplir et de se compléter d'une certaine façon, d'une manière extensive, jusqu'à ce que le corps mystique eh bien, soit totalement édifié, c'est-à-dire l'Église. Ouais. On peut appliquer au sacrifice, je pense que c'est tout à fait légitime, et c'est même la pensée, je crois, de saint Paul et de saint Pédis, quand il s'agit de tout récapituler dans le Christ. Ouais. Il s'agit de tout récapituler. Le sacrifice de la croix doit récapituler peu à peu tous les membres du corps mystique. Ouais. Le sacrifice de la croix, c'est le sacrifice de la tête, caput. Mais il s'agit de récapituler dans ce sacrifice eh bien, les sacrifices de tous les êtres humains, de tous les baptisés. Voilà, donc il faut que tous nous prenions place dans le sacrifice de la tête. Et donc il faut que ce sacrifice de la tête nous soit rendu présent d'une certaine façon. On ne va pas le renouveler, on ne va pas le refaire, ce sacrifice de la tête, mais on va le rendre présent. Comme notre Seigneur l'avait rendu présent à la scène. Eh bien, le prêtre, de la même façon, va le rendre présent sur l'autel de la messe. Simple. Et oui. Et c'est la définition, Ce sont là les définitions du Concile de Trente. Hein. Ce sont les définitions du Concile de Trente. Le Concile de Trente est d'une clarté, mais alors ça, c'est extraordinaire. Hein. Par exemple, ici, c'est bien sûr le texte, la session 22e, qui traite du Saint Sacrifice de la Messe. Et par exemple, le troisième canon du Saint Sacrifice de cette 22e session, nous verrons les deux autres après. Voici ce qu'il dit. Si quelqu'un dit que le sacrifice de la messe est seulement un sacrifice de louange et d'action de grâce, ou une simple commémoration du sacrifice accompli sur la croix, et non pas un sacrifice propitiatoire, ou qu'il ne profite qu'aux communions, et qui ne doit pas être offert pour les vivants et les défunts, pour les peines et les satisfactions et les autres nécessités, qu'il soit anathème. Donc celui qui dit ça est hérétique. Bon, je vous laisse lire certaines déclarations de prélats, de prêtres, de cette église qui se nomme l'église conciliaire. Ça fait peur. Bon, enfin. Voyons donc quand même, c'est plus important, je pense, pour nous, de voir un peu ce que dit le Concile de Trente sur cette question, justement, du sacrifice de la messe. Eh bien, il affirme la même chose dont nous venons de parler. Tout d'abord, l'identité essentielle entre le sacrifice de la croix et le sacrifice de la messe, et puis cette différence qu'on peut appeler différence modale, différence de mode, différence accidentelle, quant au mode de présentation du sacrifice. Identité du sacrifice, mais mode, présentation différente. Donc cela, c'est la 22e session du Concile de Trente, qui, dans les textes, datent, si vous voulez, pour la petite histoire, du 17 septembre 1562, pas d'aujourd'hui, quand même. Et le chapitre premier de cette session, ce sont des textes qui sont très beaux, et vraiment que vous pourriez lire sans difficulté, c'est très simple, hein, vraiment, beaucoup plus simple à lire que beaucoup d'autres documents conciliaires. Voici ce que dit ce premier chapitre. « Parce que sous le premier testament, saint Paul nous en est témoin, rien ne pouvait aboutir à l'achèvement à cause de l'imperfection du sacerdoce lévitique. Il a fallu, Dieu, le Père des miséricordes, l'ordonnant ainsi, qu'il se leva un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédek, notre Seigneur Jésus-Christ, qui aurait la puissance de parachever et d'amener à la perfection tous ceux qui auraient à offrir des sacrifices. » Donc, insuffisance, imperfection des sacrifices de l'ancienne loi, donc un nouveau prêtre, qui lui, eh bien, va porter tout cela à la perfection. Ainsi donc, bien que notre Dieu et Seigneur dût s'offrir lui-même une seule fois à Dieu son Père par sa mort sur l'autel de la croix, donc unicité du sacrifice. En vue d'y réaliser une rédemption éternelle. Rédemption éternelle. Voyez, donc, unicité du sacrifice, mais rédemption éternelle. Donc, il y a déjà l'idée d'une continuité. Il faut que ça continue, il faut que ça dure. Si la rédemption est éternelle, nous ne sommes pas éternels. Alors, comment allons-nous rentrer dans la rédemption éternelle? Eh bien, par une certaine durée, une certaine continuité. Donc, vous voyez, identité du sacrifice, unité, pardon, du sacrifice, mais nécessité d'une certaine durée, quand même. Cependant, parce que son sacerdoce ne devait pas s'éteindre par la mort, donc, vous voyez, là également, d'où nécessité de la pérennité du sacerdoce. Notre Seigneur va mourir, notre Seigneur est déjà mort à la scène, sacramentellement, oui. Oui, il faut que ce sacerdoce demeure pour la pérennité pour la durée du sacrifice, pour que la rédemption soit effectivement éternelle. Donc, son sacerdoce ne devait pas s'éteindre par la mort. Alors, que fit-il à la dernière scène, la nuit même où il était livré, pour laisser à son épouse bien-aimée l'Église, comme le réclame la nature humaine, un sacrifice visible, Une nécessité de la visibilité du sacrifice. Oui. Le sacrifice purement intérieur, c'est pas vraiment humain. L'homme, il est sensible. L'homme, il est fait de chair et d'os. L'homme, il est fait de sensibilité. Il a besoin de voir, de toucher, pour connaître. Tout ce... Rien n'accède à notre âme sans passer par les sens. Il n'y a rien à faire, ça. Toute notre connaissance, elle passe par les sens. La vision, l'ouïe, tout ce qu'on peut imaginer. Si nous n'avions aucun sens, nous ne pourrions rien connaître. Donc, nécessité de la visibilité d'un sacrifice. Comme le réclame la nature humaine. Sacrifice visible, propre à représenter ce sacrifice sanglant. Et donc, oui, propre à représenter, mais représenter au sens propre du mot, rendre présent. Ce sacrifice sanglant qui allait s'accomplir une fois pour toutes sur la croix, oui, répétition, donc unicité du sacrifice de la croix, qui allait s'accomplir une fois pour toutes sur la croix, donc propre à représenter ce sacrifice sanglant, propre également à en prolonger le souvenir jusqu'à la fin des siècles, permanence, ainsi qu'à en appliquer la vertu salutaire à la rémission de nos péchés quotidiens, oui, nécessité que ce sacrifice puisse justement bien appliquer ses fruits à tous ceux qui pêchent, c'est-à-dire nous tous, toutes les générations, se déclarant lui-même comme prêtre établi pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek, il offrit à Dieu son Père son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin. Donc, réalité de l'offrande, de l'oblation, de l'immolation, il offrit à Dieu son Père son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin. Les distribua sous ces mêmes symboles aux apôtres qu'il établissait alors comme prêtres, donc institution du sacerdoce, et leur donna à eux ainsi qu'à leurs successeurs dans le sacerdoce l'ordre de les offrir par ces paroles « Faites ceci en mémoire de moi » comme l'Église catholique l'a toujours cru et enseigné. C'est très beau ce texte. Il continue, le concile continue. En effet, après avoir célébré la Pâque ancienne, que la multitude des enfants d'Israël immolait en mémoire de la sortie d'Égypte, il a institué la Pâque nouvelle, la substitution, la Pâque nouvelle, à la place de la Pâque ancienne. Et quelle est cette Pâque nouvelle? Sa propre personne, qui devait être immolée sous des signes visibles, par l'Église au moyen des prêtres en mémoire de son passage de ce monde à son Père, quand, par l'effusion de son sang, il nous a rachetés, arrachés à la puissance des ténèbres et transférés dans son royaume. Et telle est bien cette oblation pure que nulle indignité ou malice des offrandes ne peut souiller. Celle-là même que le Seigneur a prédite par Malachie comme devant être offerte pur en tout lieu à la gloire de son nom, qui devait être grand parmi les nations. Celle-là même que saint Paul indique assez clairement qu'en écrivant aux Corinthiens, il dit que ceux qui se sont souillés en participant à la table du Seigneur, entendant chaque fois par table l'autel. C'est elle enfin qui était figurée par tant de types divers de sacrifices, autant de la nature et de la loi, car tous les bienfaits qu'il signifiait, elle les possède comme consommation et perfection de tous. Voilà l'enseignement du Concile de Trente, oui, très simple, puisé tout simplement dans la Sainte Écriture, et puis la réflexion intelligente des pères et des docteurs de l'Église. Oui. Donc la scène est une offrande et un sacrifice, et à la messe, il y a un sacrifice propre et véritable offert à Dieu. C'est ce que définit justement le premier canon de cette 22e session. Si quelqu'un dit que dans la messe, n'est pas offert à Dieu un vrai et propre sacrifice, ou que être offert ne signifie pas autre chose que le fait pour le Christ de nous être donné en nourriture, qu'il soit anathème. Je suis tremblé, ça. Hein? Si quelqu'un dit que dans la messe n'est pas offert à Dieu un vrai et propre sacrifice, juste un sacrifice spirituel, on fait mémoire, on se souvient, etc. Oui, bon, là, ce témoignage d'amour qu'il nous a donné, voilà, c'était tellement beau, etc. Non. C'est pas ça, la messe. La messe est un vrai et propre sacrifice. Ou bien encore, canon 2, Si quelqu'un dit que par ses paroles, faites ceci en mémoire de moi, le Christ n'a pas institué ses apôtres prêtres, ou n'a pas disposé qu'eux-mêmes et les autres prêtres offrissent son corps et son sang, qu'il soit anathème. Donc si quelqu'un n'admet pas qu'il existe un sacerdoce ministériel d'institution divine, et que dans ce sacrifice, eh bien, on offre son corps et son sang, eh bien, qu'il soit anathème, celui-là. Il n'est pas catholique, il est hérétique. Et la messe, donc la scène, la messe, n'est pas un autre sacrifice, et la scène non plus, bien sûr, n'était pas un autre sacrifice, mais elle était déjà, eh bien, le sacrifice de la croix, commencé, rendu présent, et la messe elle-même n'est pas un autre sacrifice. La seule différence, elle est modale. C'est-à-dire que le sacrifice de la croix est un sacrifice sanglant et sans ministre, alors que le sacrifice de la messe est un sacrifice non sanglant et avec ministre. C'est ce qu'expose le deuxième chapitre de cette même session. Parce que dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ est contenu et immolé d'une manière non sanglante, qui s'est offert lui-même une seule fois sur l'autel de la croix d'une manière sanglante. Le Saint Concile enseigne que ce sacrifice est vraiment propitiatoire. Apaisé par cette oblation, le Seigneur, en nous accordant la grâce et le don de la pénitence, nous remet nos crimes et nos péchés, même les plus grands. C'est en effet une seule et même hostie. Et le même l'offre maintenant par le ministère des prêtres, qui s'offrit alors lui-même sur la croix, la seule différence étant dans la manière de l'offrir, dans le mode, c'est tout. Et de cette oblation sanglante, nous recevons en abondance les fruits au moyen de l'oblation non sanglante. Et tant s'en faut que celle-ci fasse en aucune façon tort à celle-là. C'est pourquoi, comme l'enseigne la tradition des apôtres, on a raison de l'offrir, non seulement pour les péchés, les peines, les satisfactions et les autres besoins des fidèles vivants, mais encore pour ceux qui sont morts dans le Christ et qui ne sont pas encore pleinement purifiés. Vous voyez, donc légitimité de l'offrande du sacrifice pour les défunts, pour les vivants, bien sûr, mais également pour les défunts. Voilà toute la... Vous voyez, c'est une définition très, très simple, très claire, et je vois pourquoi on se casse la tête pour savoir, à chercher à savoir ce qu'est la messe, ou redéfinir la messe, ou quoi, tout le temps. C'est défini depuis 1562. Bon, je crois qu'il n'y a pas à se casser la tête, moi. Et c'est clair, moi, je pense. Qu'il y ait une part de mystère, la chose est bien évidente. Mais ma foi, quand on a un peu d'humilité, quand on ne cherche pas à expliquer tous les mystères qui sont en Dieu, ben je crois qu'il n'est pas trop difficile de faire confiance, de croire à ce que nous disent les Saintes Écritures et à ce que nous enseigne l'Église. Donc, sacrifice propitiatoire, même victime, même offrande, seule diffère la manière. Et si on fait un peu, si on essaie de faire un rapport, un peu, une sorte de comparaison entre la croix et la messe, il y a des ressemblances qui sont essentielles, et puis il y a des différences qui, elles, sont accidentelles. Les ressemblances, eh bien d'abord, c'est la même victime. La même victime. C'est le même Christ qui est mort sous la croix et qui est immolé à la messe. Nous verrons une autre fois comment se réalise cette immolation. Pas très, très, très simple. Surtout que les théologiens ne sont pas tous d'accord pour expliquer, mais enfin, pas très difficile, vous verrez. Donc, identité de la victime, identité, même victime, et le prêtre est le même. Le prêtre à la messe est le même. Celui qui ouvre l'autel n'est pas le prêtre, il est le ministre du prêtre. Et qui est-ce qui réalise le sacrifice de la messe? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre, vous le savez, je pense, on a dû vous l'expliquer plus d'une fois, n'agit que in persona Christi. Ce n'est pas ma personne à moi qui dit « Hoc est enim corpus meum ». Je ne peux pas dire une chose pareille, moi. Imaginez le truc, tiens pas debout, je ne peux pas dire une parole pareille, moi. C'est impensable, ça. C'est pas moi qui le dis, ça. Non, c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Il se sert de mes lèvres pour le dire. Il se sert de mon intelligence, il se sert de ma volonté pour le dire. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Mes lèvres le disent, Mais la personne qui se sert de ses lèvres, eh bien, ce n'est pas la mienne. C'est Jésus-Christ. Ben, oui. Donc vous m'entendez ? Non, vous ne m'entendez pas, moi. À ce moment-là, vous ne m'entendez pas, en principe. Mais si vous m'entendiez, vous m'entendriez. Mais en fait, ça serait quelqu'un d'autre que moi qui parlerait. Eh oui, c'est ça qui est beau. Voilà. C'est notre Seigneur qui se sert de ma volonté. Bien sûr, il faut que j'adhère à sa volonté. C'est toute la question de l'intention du prêtre, cela. L'intention du prêtre, c'est simplement, justement, de n'avoir pas de volonté personnelle. Surtout, je ne veux pas faire ce que je veux. Je veux faire ce que lui veut faire. Alors ma volonté, zéro, tais-toi, elle s'anéantit, et elle colle, elle s'abandonne, elle se confie, elle se remet totalement à la volonté de notre Seigneur. Allez-y, faites ce que vous voulez. Et c'est lui qui, voilà, qui m'impose, si je peux dire, ou qui pousse un peu ma volonté à prononcer les paroles qu'il veut prononcer. Mais en fait, c'est lui qui les prononce. In persona Christi. Donc le prêtre est le même, mais là il agit par un ministre, simplement. Allez, donc même victime, même prêtre, donc même sacrifice. Si la victime est la même et le prêtre est le sacrifice est le même. Ce n'est pas un autre sacrifice, ouais, il n'y a pas juxtaposition, il y a subordination. Alors les différences, car il y en a quand même, bien sûr, des différences. D'abord dans l'immolation elle-même. À la croix, il y avait la mort, il y a la mort réelle, bien sûr, mort physique, sous les naturelles, sanglante, bon. Alors qu'à l'autel, il y a immolation sacramentelle. Immolation sacramentelle. C'est dans l'ordre du sacrement que se réalise l'immolation. Mais attention, sacramentelle, ça ne veut pas dire irréel. Ce qui est sacramentel est réel. Nous en reparlerons ça un peu plus tard, de cette question de l'immolation. Le prêtre à la croix, eh bien, il était visible. Notre Seigneur sur la croix était bien visible, les hommes le voyaient. Le prêtre qui offrait son sacrifice, il était vu. Alors qu'à la messe, le prêtre n'est pas visible. Vous ne voyez pas le prêtre. Vous voyez son ministre. Les effets, quant aux effets, à la croix, la rédemption est universelle. Elle embrasse tous les hommes. Il y a la satisfaction est offerte pour tous les hommes. Notre Seigneur s'immole, s'offre, meurt pour tous les hommes. Alors qu'à la messe, il y a l'application individuelle du sacrifice de la croix. Et à la croix, notre Seigneur a tout mérité. Il a tout mérité, tout obtenu pour le salut de tout le genre humain. Tout est obtenu, tout est gagné, si on peut dire. Mais il ne donne encore rien. À la croix, il ne donne rien encore au monde, aux hommes. Oui. Alors qu'à la messe, eh bien, c'est l'inverse. À la messe, il n'y a plus de mérite, mais il y a l'application. Notre Seigneur donne les fruits de son sacrifice. Le mérite, ça y est, il est acquis à la croix. Il a tout mérité à la croix. La messe n'obtient pas de nouveaux mérites. Tous ces mérites ont été obtenus à la croix. La messe, elle nous transmet justement ce qui a été mérité au sacrifice de la croix. Vous voyez, donc, il y a une nécessité des deux. La croix pour tout mériter et la messe pour tout donner. Pour donner ce qui a été mérité. Ah, si on comprenait la messe. Hein. Eh oui. Tout est là. Tout est là à la messe. On a tout à portée de la main. Tout là, à portée, dirais, du cœur, de l'âme, de l'esprit, tout est là. Et on fait et on préfère aller au cinéma ou je ne sais pas quoi. Il y a un mystère. Hein. Eh oui, on est tous des pauvres types. Bon, enfin. Et c'est dommage, si on comprenait justement ce grand mystère de la messe, et ce trésor de la messe, combien de fois, bon, on vous en a parlé, je pense que vous le savez bien, tout cela, combien de fois on nous a parlé de ce trésor de la messe. On essaie un petit peu de vous ouvrir un peu à ce trésor de la messe. On devrait courir à la messe. On devrait courir. Bien sûr, aujourd'hui, c'est un peu difficile, je comprends bien, mais On comprend, on lit parfois dans la vie des saints, la vie des religieux, des religieuses. Là. Ils passaient leur temps à courir après la messe. Oui. C'est ces époques bienheureuses où il y avait des messes à toute heure du jour, un peu partout, dans toutes les paroisses. Il y en avait comme ça qui couraient du matin au soir. Ils allaient de messe en messe. Ils communiaient qu'une fois, bien sûr, mais enfin, voilà. 3, 4, 5, 6 messes dans la journée. Mais c'est merveilleux. À chaque messe à laquelle j'assiste, c'est l'œuvre de ma rédemption qui s'accomplit. C'est l'œuvre de mon salut qui s'accomplit. Eh oui. Eh oui. C'est terrible. Et c'est là, c'est malheureusement, je dirais, beaucoup de nos contemporains ont oublié hein, ces grandes réalités que l'Église pourtant a toujours cru et que l'Église a toujours enseigné. Et malheureusement, nous assistons dans certains milieux de l'Église, hein, véritablement au triomphe de Luther. Hein, c'est clair, triomphe de Luther. Oui, ce qu'écrivait encore Luther. Hein. Et pour Luther, la messe n'était finalement qu'une prédication. Et pour nous rappeler justement cet amour de Dieu pour les hommes, cet amour du Christ pour les hommes. La messe, écrit-il, est le bienfait de la promesse divine proposée à tous les hommes par la main des prêtres. Il n'y a dans la messe que ces deux choses, la promesse divine et la foi humaine. C'est tout. Celle-ci recevant ce que celle-là promet. La messe n'est pas autre chose que la promesse divine, ou le testament du Christ, mis en valeur par le sacrement du corps et du sang. La messe, selon sa substance, n'est proprement rien d'autre que les paroles du Christ, prenez et mangez. Comme s'il disait, voici, ô homme, pécheur et damné, à cause de la pure et gratuite charité dont je t'aime, et par la volonté du Père des miséricordes, je te promets par ces paroles, avant tout mérite et souhait de ta part, la rémission de tous tes péchés et la vie éternelle. Et pour te rendre très certain de ma promesse irrévocable, je donnerai mon corps et je répandrai mon sang, confirmant ma promesse par la mort et te laissant l'un et l'autre en signe et mémorial de cette promesse. Peu de gens le savent, continue-t-il. Peu de gens le savent. La messe n'est qu'une promesse, comme les promesses faites à Adam, à Noé dans l'arc-en-ciel, à Abraham, à Moïse, mais plus parfaites que ces dernières. Car elle promet non les biens temporels, mais la rémission des péchés. Elle n'est pas un sacrifice. Rien n'y est offert à Dieu. Si l'on n'accorde pas cela, c'est tout l'évangile qui est perdu. Voilà Luther. Saint Luther. Tout se tient, vous savez. Bon. Eh oui, Luther nie la présence du sacrifice rédempteur en dehors du temps où il a été offert. Oui. Ce sacrifice est absent, c'est fini, il est absent, et on ne le rejoint que par le souvenir et par la foi, c'est tout. Et ses disciples, malheureusement, certains d'entre eux iront beaucoup plus loin, pour dire la même chose même au sujet de la permanence du Christ lui-même au milieu de nous, même quant à la présence réelle. Vous voyez, certains protestants admettent la présence réelle, mais non pas le sacrifice. Ils admettent bon, une certaine présence quand même dans l'Eucharistie, mais pas le sacrifice. Mais certains iront même beaucoup plus loin, qui repousseront même la présence tout simplement réelle, la présence eucharistique. Vous voyez. Zwingli, par exemple, repousse justement cette présence corporelle du Christ dans le passé. Il a été présent, mais il ne l'est plus. La présence n'est même pas continuée dans le sacrement. Il faut la prêcher simplement comme un fait d'histoire sur le Christ historique. Et il sera malheureusement suivi par la majorité des protestants. La majorité des protestants ne croient même plus à la présence réelle. Non seulement ils ne croient pas à la présence du sacrifice, mais ils ne croient pas à la présence du Christ, même non sacrifié, même non immolé, on pourrait. Certains pourraient imaginer une présence du Christ dans l'hostie, quand même, le prêtre a consacré, donc il est présent dans l'hostie, mais pas immolé. Bon, c'est une façon de consoler, mais non, même plus. On est beaucoup plus loin. La messe n'est qu'un pur symbole commémoratif, ou un souvenir, une prédication. Ouais. Et c'est une méconnaissance. Hein. Méconnaissance, ils n'ont pas compris. n'ont pas compris ce changement radical apporté par la loi nouvelle. Ce dont nous parle saint Paul, ce dont nous parle le Concile de Trente, cette transformation radicale opérée par notre Seigneur sur la croix. Cette transformation entre l'ancienne loi, la nouvelle loi, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Vous voyez, radicalement, la foi des patriarches, la foi des justes de l'Ancien Testament est de même nature que la nôtre. La foi d'Abraham n'est pas autre que notre foi à nous. C'est la même foi qui justifie, qui sauve tous les justes. Tous les justes sont justifiés par la même foi. La foi théologale, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas celle de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament. C'est la même foi. Mais, simplement, cette foi, je dirais, se trouve réalisée dans un état différent en raison bien de la condition de ceux qui ont la foi, ceux qui vivaient avant le Christ et ceux qui vivent après le Christ. La même vertu de foi s'exerce de façon différente. Les anciens, les justes de l'Ancien Testament, croyaient en une réalité encore absente et qui n'était que proposée sous des signes, qui étaient des figures, qui étaient des promesses. Le Sauveur à venir, tous les sacrifices de l'Ancien Testament, par exemple, étaient des signes, des figures du sacrifice de la croix. Tous ces sacrifices d'holocauste, sacrifices pacifiques, etc., ou l'agneau pascal, qui est sans doute la plus belle des figures du sacrifice de la croix, mais n'est qu'une figure. Mais à travers ces figures, à travers ces signes, ils croyaient au Rédempteur. Ils croyaient à la rédemption, ils croyaient au sacrifice rédempteur, à travers les figures données par Dieu dans l'Ancienne Loi. Et les nouveaux, donc, nous autres, si vous voulez, les justes du Nouveau Testament, eux, eh bien, ils croient en la même réalité, mais cette fois rendue présente, cachée et contenue sous des signes, les signes sacramentels, donc. Le Sauveur présent. La foi est la même, mais simplement la condition est un petit peu différente. Mais la foi est la même. Et le salut lui-même, eh bien, c'est le même salut qui est opéré pour les justes et pour les justes de l'Ancien Testament et pour nous autres. Ce salut qui est opéré par notre Seigneur sur la croix, eh bien, il est rendu actuel dans l'Ancien Testament par anticipation, et dans le Nouveau Testament, il est rendu actuel par dérivation. Vous avez, si vous voulez, un sacrifice qui transcende tout l'ordre du temps et qui trouve ses effets par anticipation dans l'Ancien Testament et par dérivation dans le Nouveau Testament. Bon, c'est un petit peu ce que nous évoquions hier justement pour le privilège de l'Immaculée Conception, qui a été la première des rachetés. Or, elle a été immaculée avant que le Christ ait offert le sacrifice de la croix. Comment cela s'est-il fait? Eh bien, par anticipation, en prévision des mérites. Elle a été préservée du péché originel. Eh bien, pour les autres justes de l'Ancien Testament, de la même façon, ils ont été justifiés par anticipation. Ce sacrifice, déjà, eh bien, produisait ses effets dans l'ancienne loi par le moyen des sacrements de l'ancienne loi qui étaient des signes non efficaces. Ouais, bon. Alors que pour nous, les sacrements sont des instruments efficaces. Ouais. C'est ce que dit le décret pour les Arméniens. Il y a quand même une petite différence. Ouais. La foi est la même. L'œuvre du salut s'opère de la même façon, par anticipation ou par dérivation, mais les moyens ne sont pas les mêmes. Les sacrements de l'ancienne loi, par exemple la circoncision, qui était comme un sacrement sous l'ancienne loi, était un signe non efficace. Et ce que dit le décret pour les Arméniens, sept sacrements de la loi nouvelle, etc., qui diffèrent beaucoup des sacrements de la loi ancienne. Ceci, en effet, ne causait pas la grâce, mais figurait seulement le don qui en serait fait par la passion du Christ. Les nôtres, eux, contiennent la grâce et la confèrent à ceux qui les reçoivent dignement. Et donc la scène, eh bien, c'est cela. Et autour de cette heure qui est l'heure du Christ, qui est l'heure suprême du monde, eh bien, nous avons deux qu'on appelle deux économies. l'économie des anticipations, ou si l'on peut dire, eh bien, les hommes montent vers la croix, et puis il y a l'économie des dérivations qui découlent de la croix et qui préparent la parousie, qui préparent le retour de notre Seigneur dans la gloire. Et à la scène, eh bien, le sacrifice de la croix est déjà en acte de se dérouler quand il institue la scène. La scène et la passion sont un, sont liés très très intimement. Il n'y a pas deux réalités, c'est la même réalité qui se déroule à la scène et à la croix. Et la scène, eh bien, multiplie, je le répète encore une fois, non pas le sacrifice, mais le mode de présence de sacrifice, du sacrifice. Le Christ, à la scène, ça, c'est quelque chose de confondant, hein, ça donne un peu le vertige. Hein. Le Christ n'est pas dédoublé à la scène. Il n'est pas deux. Il n'y a pas deux Christ à la scène. Il n'y a pas le Christ, dirais, dans son corps physique, naturel, et puis le Christ dans les espèces du pain et du vin, non, il n'y en a qu'un. Mais sous deux modes différents. Il y a sa présence naturelle, bien sûr. Il est là, il parle, il fait son discours après la scène, etc. Et puis il y a sa présence sacramentelle. Donc il y a deux présences du Christ, mais le Christ est unique. C'est beau, ça. C'est beau. Et je pense que les apôtres n'avaient pas envie de danser autour de la table, je crois pas. Je pense pas. Et oui. Et cette présence sacramentelle dans les espèces, là, qu'il vient de consacrer, elle est totalement dans la dépendance de lui-même. C'est lui qui est là-dedans. Et s'il n'était plus là, les espèces n'y seraient plus. Enfin, la présence sous les espèces n'y serait plus non plus. C'est parce qu'il est là, c'est parce qu'il est, qu'il est également dans les espèces sacramentelles. Donc, il est un, il n'est pas deux. Mais à la messe, c'est pareil, même réalité. Bon, le Christ est au ciel, mais rien ne l'empêche, même peut-être encore plus facile, bon, si l'on peut dire, d'être présent également sous les espèces du pain et du vin. Et le sacrifice, eh bien, c'est pareil. Voilà, appliquer le même raisonnement au sacrifice. Ouais. Le sacrifice n'est pas multiplié, il n'y a pas deux sacrifices, c'est la présence du sacrifice, simplement, qui est multipliée. Mais le sacrifice est unique. Ouais. Et du côté de l'acte rédempteur de Dieu, et du côté de Dieu, rien n'est changé par la scène ou la messe. L'acte demeure ce qu'il est, rien n'est changé. Pourquoi ? La scène est un vrai sacrifice au sens propre. Elle est l'offrande du sang. Elle est l'offrande du corps. Le sang est répandu pour la rémission des péchés, et de même à la messe. Bien sûr, on ne voit pas couler le sang. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas couler le sang que le sang n'est pas répandu. À la scène, le sacrifice non sanglant, à la scène, le sacrifice non sanglant, et l'effet exclusif de notre Seigneur, il est le seul prêtre à la scène, à la messe, eh bien, l'effet est principalement, bien sûr, de notre Seigneur, mais ministériellement des prêtres. Oui, notre Seigneur agit à la scène, par le ministère des prêtres, alors qu'à la scène, il agissait par sa vertu propre et seule. Oui. Mais à la messe, encore une fois, il agit comme agent principal. C'est lui qui meut le prêtre à prononcer les paroles et donc à réaliser la consécration et le sacrifice. Et la scène est donc, bon, je vous l'ai dit, la scène est toute ordonnée à la messe. Vous voyez, ce que nous refaisons à la messe, eh bien, en fait, c'est nous refaisons ce que notre Seigneur a fait à la scène. Nous ne refaisons pas. Bon, enfin. Quant au mode, disons, nous ne refaisons pas ce qu'a fait notre Seigneur sur la croix. Sinon, il faudrait, je ne sais pas quoi, que je m'immole, ouais, que je verse mon sang physiquement. Bon, et ça, je pourrais le faire qu'une fois, donc ce n'est pas possible. Ouais. Bon, ce n'est pas cela. Ouais. C'est... Donc, à la messe, le prêtre, eh bien, refait ce que notre Seigneur a fait à la scène. Mais la scène était déjà la réalité de la croix. Donc, la messe, eh bien, c'est la même réalité que la croix. « Oh, je pourrais encore vous citer bien des textes. Les pères de l'Église, bien sûr, c'est la foi constante de l'Église, cela. C'est ça, vraiment. En disant cela, le Concile de Trente n'a rien innové. C'est la foi constante de l'Église. C'est ce que les apôtres nous ont enseigné dans les évangiles. C'est ce que saint Paul nous a expliqué, donc, dans sa première aux Corinthiens. C'est ce que les pères de l'Église ont enseigné. Parce qu'il y a Saint-Irénée, par exemple, quand même. Il faut bien aller voir chez les bons, qui sont tous bons, bien sûr, mais enfin. Quand il donnait avis à ses disciples d'avoir à offrir à Dieu les prémices de ses créatures, non comme s'il en avait besoin, mais pour n'être pas eux-mêmes improductifs et ingrats, il prit de sa création du pain et rendit grâce en disant « Ceci est mon corps ». Et de même, le calice, qui est également d'une créature selon nous, il affirma que c'était son sang et enseigna le sacrifice nouveau de l'Alliance nouvelle. En le recevant des apôtres, l'Église dans le monde entier l'offre à Dieu qui nous donne la nourriture en prémisse de ses bienfaits dans l'Alliance nouvelle. Et ensuite, il cite le prophète Malachie. Il signifie très nettement par ces paroles que le premier peuple cesserait de faire des offrandes à Dieu, mais qu'en tout lieu, lui serait offert un sacrifice et pur cette fois, et que son nom serait glorifié parmi les gentils. Oui, la chose est bien claire, hein, la réalité du sacrifice est tout référé au sacrifice de la scène et sacrifice de la croix. Saint Cyprien encore, qui en effet fut plus prêtre du Très-Haut que notre Seigneur Jésus-Christ, qui offrit un sacrifice à Dieu son Père, le même que Melchisédek avait offert, à savoir le pain et le vin, c'est-à-dire son corps et son sang. Oui, référence là à ce sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, l'offrande du grand prêtre, du roi Melchisédek, qui offrit le pain et le vin à Abraham, figure déjà hein, du sacerdoce et du sacrifice de la messe. La veille de sa passion, saint Cyprien continue, le Seigneur, prenant la coupe, la bénit et la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, ceci est le sang du testament qui sera offert pour la multitude en rémission des péchés. » On voit par là que la coupe que le Seigneur offrit était mêlée et que ce qu'il appela sang avait été du vin. Il s'ensuit que le sang du Christ n'est pas offert si le vin manque dans la coupe. Et que le sacrifice du Seigneur n'est pas régulièrement célébré si notre oblation et notre sacrifice ne répondent pas à sa passion. Vous voyez toujours ce lien entre la passion, le sacrifice de la croix, le sang. Saint Jean Chrysostome, quand tu vois le Seigneur immolé et étendu, et le prêtre incliné sur le sacrifice et en prière, et tout le peuple rougi par ce sang si précieux, penses-tu être encore parmi les hommes sur la terre ? Il parle de la messe, hein, il ne parle pas de la croix. Hein. N'es-tu pas plutôt transféré dans les cieux et ayant déposé toute pensée charnelle pour contempler ce qui se fait avec l'âme nue et l'esprit purifié ? Ô miracle, ô divine philanthropie, celui qui est assis près du Père est à ce moment même dans les mains de tous. Il se donne à toucher et à prendre à ceux qui le veulent, et tous le font avec les yeux de la foi. À l'époque, on communiait dans la main. Moi, je veux bien, moi. Mais à condition qu'on ait la même foi que les chrétiens de l'époque, et qu'on meure dans les arènes. Là, je veux bien. Voilà, les chrétiens qui meurent martyrs dans les arènes, cela, je veux bien leur donner la communion dans la main. Ben, je veux bien, on verra. Attendez, excusez, hein, attention. Hein. Bon. Révérez cette table à laquelle nous participons tous et placez sur elle en sacrifice le Christ immolé pour nous. Voilà quelques textes des pères de l'Église. Vous voyez, là, c'est la foi constante de l'Église. Et là-dessus, nous ne pouvons pas avoir le moindre doute, la moindre hésitation. Alors, ma foi, ben, méditer tout cela, c'est peut-être un petit peu difficile, mais il faut bien quand même avancer un peu dans les choses difficiles pour essayer de mieux comprendre hein, ce grand sacrifice de notre salut, ce sacrifice rédempteur, si nous voulons bien y participer, bien en vivre. Hein, nous continuerons donc à explorer un petit peu tout cela. Les fois suivantes, nous verrons un peu les, peut-être par partie, les différentes parties de la messe. Vous voyez. Surtout, bien sûr, les grandes, les parties vraiment sacrificielles, qui a l'offertoire, la consécration et la communion, qui réalise le sacrifice, les rites antérieurs, tout ce qu'on appelle la messe des, l'avant-messe, la messe des catéchumènes, étant destiné simplement à préparer les assistants. C'est-à-dire de nous préparer, nous, justement, à rentrer dans le sacrifice. Ensuite, l'offertoire, qu'est-ce que c'est? C'est la préparation de la victime. Puis ensuite, eh bien, il y a l'immolation de la victime. Et l'immolation de la victime s'étend, attention, depuis la consécration jusqu'à la communion du prêtre. Hein. La victime n'est définitivement immolée que quand elle est consommée. Il faut la manducation de la victime. C'est là que le sacrifice est achevé. Ouais. Donc, communion du prêtre. Puis ensuite, eh bien, il y a la communion des assistants. Mais là, ouais, on revient un petit peu aux fidèles. Tout le cœur de la messe, bien sûr, la partie essentielle, eh bien, c'est le prêtre et la victime. Donc l'offertoire, la consécration et la communion du prêtre. Et tout le reste, les rites préparatoires, c'est pour préparer les fidèles. Et la communion des fidèles, eh bien, c'est pour la sanctification des fidèles, ouais, pour qu'ils recueillent les fruits du sacrifice. Hein. Enfin, nous verrons cela. J'ai fini. Même si j'ai des questions à poser.
Dans l'ordre de Melchisédek, le mot par ordre, comment l'expliquer, comment le définir?
Un peu dans le même sens qu'on parle d'un ordre religieux, ordre. Oui, c'est là le genre un petit peu du sacerdoce de Melchisédek qui offre le pain et le vin. Pardon. Melchisédek n'était bon, était, on ne sait pas trop qui il était. Hein. L'Écriture dit pas grand-chose sur lui. Hein. C'est ni père ni mère, sans généalogie. Il arrive, il repart, on ne sait pas où il va, d'où il vient. Roi de Salem, roi de Jérusalem, roi de justice. Mais ce que l'on sait simplement, c'est que on voit en lui une figure du prêtre, une figure du Christ, par le fait qu'il est venu. Qu'il est venu donc au devant d'Abraham, vous voyez, Abraham lui a rendu la dîme. Oui. Donc Abraham, qui était le père des croyants, s'est soumis, si vous voulez, à Melchisédek, oui, qui était grand prêtre et qui offrait le pain et le vin. Oui. Donc on voit là une figure de notre Seigneur, du Christ, oui, devant lequel eh bien, tous les grands de la terre, etc., devraient se soumettre. Oui. Donc l'ordre de Melchisédek signifie simplement, si vous voulez, cette transcendance du sacerdoce, et bien surtout le reste des toutes les autres autorités. Ouais.
Les textes du Concile de Trente que vous avez cités, est-ce qu'on les trouve dans le catéchisme du Concile de Trente?
Non. Non, vous les trouvez dans un livre qui est encore édité, je crois. Il y a encore des éditions qui s'appellent La foi catholique, par le père Dumège, un jésuite, qui vous donne pratiquement tous les textes les plus importants de tous les conciles. Et c'est un document très, très intéressant. Donc, tout pratiquement, c'est classé par chapitre, sur la foi, sur Dieu, sur les sacrements. C'est vraiment les textes des conciles, simplement, les définitions des conciles. Alors, les anciennes éditions, bien sûr, ben, s'arrêtaient dans les années 50. Maintenant, vous avez en plus les textes du dernier concile. Mais vous avez aussi les textes précédents, donc ma foi, ils les ont gardés, c'est déjà bien. Et c'est des textes très beaux, hein, très très simples. Et on le trouve encore, ça. Il est, je crois, même plus ou moins constamment réédité. La foi catholique du père Dumège. C'est un effet, voilà. les sacrements sont des fruits du sacrifice. Le sacrifice, le sacrement qui réalise le sacrifice, c'est l'Eucharistie, qui elle contient sous le Christ immolé, la source de la grâce, et tous les autres sacrements se réfèrent à l'Eucharistie. Ça, c'est très clair, hein. Saint Thomas d'Aquin a des textes magnifiques là-dessus, où il montre justement que l'Eucharistie est un peu le sommet, le centre, le soleil de tout l'ordre sacramentel. Et tous les autres sacrements, soit préparent à l'Eucharistie, soit sont des dérivations de l'Eucharistie. Donc du sacrifice.
Dans la parole du prêtre, l'absolution, c'est bien que le sang du Christ est appliqué sur l'âme de fidèle.
Tout à fait. Tout à fait.
C'est bien une présence non sanglante.
Oui, mais au moment où le prêtre vous absout, il ne réalise pas le sacrifice. Il applique les fruits du sacrifice. Oui. Au confessionnal, je ne célèbre pas la messe comme ça. Non, c'est autre chose. Mais si vous voulez, ce sont des grâces obtenues par le sacrifice de la croix, rendues présentes par le sacrifice de la messe, qui découlent par le canal des sacrements. Vous avez des sacrements donc, qui préparent à l'Eucharistie et d'autres qui en dérivent. Le baptême dérive et prépare à la fois à l'Eucharistie. Le baptême dérive de la croix et il prépare à l'Eucharistie. Si on n'est pas baptisé, on ne peut pas recevoir l'Eucharistie. Donc il y prépare, il y dispose. La pénitence prépare également à l'Eucharistie, mais également elle dérive de l'Eucharistie. Mais tout, je dirais tout... tourne, si on peut dire, autour de l'Eucharistie, donc de l'autel, et donc de la croix.
Au sens propre du terme sacrifice, dire sacrum facere, rendre sacré, rendre saint, rite du terme sacrifice, c'est adéquat pour notre Seigneur Jésus-Christ ?
Bien oui, parce qu'il y a quand même la réalité de ce que fait le sacrifice. Il y a effectivement un effet de sanctification, non pas pour lui, mais pour les hommes. Mais c'est bien là l'effet du sacrifice, oui, sacrum facere, faire du sacré. Pas seulement, on dirait, se sanctifier soi-même, mais également donner du sacré, donner de la sainteté à d'autres. Oui. Et c'est effectivement, c'est ce qu'a fait le Christ sur la croix. Ça. Il s'est sacrifié, mais pas pour lui, ça, c'est clair. Et sacerdos. Sacer dans, sacra dans, celui qui donne les choses sacrées. Mais oui. Vous savez qu'on est confondu hein, quand on entend ce qu'on entend aujourd'hui. Hein. Bon, enfin, c'est pas la peine de s'attarder là-dessus, il y aurait trop à dire. À croire qu'ils n'ont jamais lu les textes du Concile de Trente, c'est clair, c'est limpide, moi je sais pas, ou même la Sainte Écriture. Enfin, mais je crois qu'ils font plus de grec, alors c'est pour ça peut-être.
Pour certains, c'est difficile de qu'ils réalisent que ça arrive jusque maintenant, tout le temps. Mais si on jette une pierre dans l'eau, ça fait des ondes, et le sacrifice du Seigneur, c'est la même chose. Ça fait des ondes infinies.
Mais voilà. Tout à fait. Je n'ai rien à dire de plus, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Dans l'ordre de la grâce, il n'y a pas d'amortissement et de déperdition. Donc ça continue comme ça. Et je pense qu'il faut bien, moi je pense, si vous avez compris ça, ce sera déjà pas mal, oui, bien distinguer entre, je dirais, la présence... comment dire ça ? Oui, entre le sacrifice, quoi, hein, la répétition du sacrifice ou la répétition de la présence du sacrifice. Deux choses différentes. C'est une petite nuance, hein, mais qui est capitale, je crois. Là. Il n'y a qu'un sacrifice, donc ce n'est pas lui qu'on renouvelle, mais on renouvelle la présence du sacrifice, sous un autre mode, sacramentel, caché, mystique, secret, peut-être, mais aussi réel que celui de la croix. Mystique ne voulant pas dire... spirituel, hein. Pas ça, mystique ça veut dire caché. Le mystère c'est ce qui est caché. Mystique ça veut dire caché, secret, intérieur, qu'on ne voit pas, c'est tout. Ça veut pas dire purement spirituel, imaginaire ou je ne sais quoi, absolument pas. réel, mais on ne le voit pas. La vie mystique est une vie très réelle, qui est cachée, mais qui est ô combien réelle, heureusement. Bon, tout va bien? Je vous ai assommé? Pardon? Ah oui, mais alors là, c'est le miracle, hein, c'est évidemment. Quand notre Seigneur apparaît dans... sous les apparences d'un enfant, ou bien quand il transforme l'hostie dans sa chair, mais ça c'est de l'ordre du miracle, hein. C'est pas normal, ça, si on peut dire.